France Inter, franceinter.com.
C'est peu vivre de ne faire qu'un personnage. Maurice Barrès. Deux mille ans d'histoire. C'est une amitié comme on en a rarement vu dans l'histoire littéraire, celle qui, au début du XXe siècle, a rapproché trois écrivains qui, comme Barrès qu'ils admiraient, voulaient vivre plusieurs vies en une seule. Pierre Drieux-La Rochelle, Louis Aragon et André Malraux. Un fasciste, un communiste et un gaulliste, attachés par une amitié si forte que pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors que leurs choix politiques les avaient séparés, aucun d'eux ne l'avait renié. Ni le fasciste Drieux, qui continuait de faire l'éloge des romans du communiste Aragon, ni le gaulliste Malraux, qui avant de rejoindre la Résistance avait demandé à Drieux d'être le parrain de son fils, ni Aragon, qui au même moment écrivait un roman dont le héros Aurélien était le portrait de celui qui avait été son ami avant de devenir fasciste. Drieux-La Rochelle, dont Aragon ne parla plus jamais pendant 20 ans, jusqu'en 1963, au micro de Francis Crémieux.
Drieux, qui a été un ami de ma première jeunesse, dont je me suis trouvé séparé, et quand je parle de Drieux, je ne parle que de cet ami que j'ai eu, je ne parle pas de ce qu'il est devenu. Ce sont deux êtres incompatibles.
Pour vous poser la question d'Aurélien, on a dit que c'était vous, puis on a dit que c'était Drieux-La Rochelle.
On a dit essentiellement que c'était moi, et c'est moi qui ai dit que c'était Drieux-La Rochelle, car effectivement, Drieux, c'était avant tout l'ancien combattant d'une génération déterminée au lendemain de la paix en 1918, de l'armistice, l'homme qui est revenu et qui ne retrouve pas sa place dans la société dans laquelle il rentre.
Aujourd'hui, Aurélien vivait dans un monde qui n'était pas le sien. Dans le siècle d'Aurélien, il n'y avait eu que la guerre.
Maurizio Serra, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier à la table ronde un livre, Les frères séparés. C'est l'amitié incroyable entre trois écrivains français, Drieux-La Rochelle, Aragon et Malraux, que rien a priori n'aurait pu rapprocher, puisque chacun d'eux a fait des choix politiques radicalement opposés. Drieux-La Rochelle est devenu fasciste, Aragon communiste et Malraux gaulliste. Comment expliquer dès lors cette amitié qui a duré quand même plusieurs années? Vous rappelez d'ailleurs qu'une des raisons, c'est peut-être la Première Guerre mondiale. Malraux était encore trop jeune pour l'avoir faite, mais Aragon et Drieux l'ont faite, et c'est même là d'ailleurs qu'ils se sont rencontrés tous les deux.
Oui, alors il y a certainement, comme vous l'évoquez, une part qui tient à l'histoire de cette génération, et qui n'est pas unique au cas d'Aragon et de Drieux-La Rochelle, mais qui certainement joue énormément, et c'est le grand renversement de rôle, même par rapport à la génération précédente, que la guerre comporte pour des jeunes qui l'ont faite et qui sont entrés, bien sûr, la première guerre, avec l'idée d'avoir été en quelque mesure trahis par leurs aînés et d'être laissés seuls dans un monde qui ne leur offre pas des débouchés clairs et évidents dans leur choix individuel et collectif. Donc, le problème de la guerre se noue à une grande tension, une grande haine vis-à-vis de la société bourgeoise qui les a envoyés à cette guerre.
Alors ça, beaucoup d'écrivains l'ont fait, sans devenir pour autant amis, sans faire les choix que tous les trois ont fait. Il y a un point qu'ils ont tous les trois en commun aussi, vous le rappelez, c'est une enfance assez comparable, une enfance sans père et même sans véritable famille, si bien qu'on pourrait croire que plus tard, ils se sépareront à cause de ça, ils chercheront un père dans des dirigeants politiques ou une famille dans les partis politiques auxquels ils vont adhérer, Maurizio Serra.
Oui, tout à fait. Il y a une absence du père qui est marquante, qui est très forte. Le père, au sens, si l'on veut, classique et traditionnel, d'un rôle fort qui soit une référence pour le mâle. Et de ce point de vue-là, il y a également un côté de recherche de la virilité qui s'opère dans les choix politiques et idéologiques,
de chacun
jusque, dans le cas de Drieu, aux pires extrémités.
Alors, il y a ça, et puis alors, il y a justement ces familles qu'ils retrouveront, mais la première des familles dans laquelle on va trouver Aragon et Drieu, c'est celle des surréalistes d'André Breton, où on les retrouve tous les deux, donc Aragon et Drieu, et qui sont à l'origine d'un pamphlet provocateur qui avait fait scandale en son temps, écrit contre un écrivain célèbre qui venait de mourir en 1924, Anatole France. On écoute André Breton en parler 28 ans plus tard, en 1952.
France représentait le prototype de tout ce que nous pouvions exécrer. Cette baudruche s'est si parfaitement dégonflée depuis lors qu'il est aujourd'hui difficile d'imaginer les fureurs que purent soulever ces quatre pages qui réunissaient des textes d'Aragon, de Drieu-La Rochelle, d'Éluard et de moi. Selon Camille Mauclair, Aragon et moi, nous appartenions au genre des fous furieux.
Si vous permettez, ce pamphlet nous est également connu par une phrase qui devait bien gêner Aragon, son auteur, quelques années plus tard.
Celle par laquelle il a voulu faire justice de France, le littérateur que salue à la fois le tapir Maurras et Moscou la gâteuse.
Et oui, en 1924, Aragon pouvait parler de Moscou la gâteuse, car il n'avait pas encore adhéré au Parti communiste, mais il était avec Drieu, avec Breton, avec Éluard, on l'a entendu Breton le rappeler, dans ce mouvement surréaliste, et à l'origine de ce pamphlet qui a fait un scandale en 1924, Maurizio Serra.
Oui, mais vous savez, Patrice Gélinet, je crois que cela tient au fait que le surréalisme représente la première grande réponse esthétique et politique au sens de la vie des individus à la crise de l'histoire de la génération qui est sortie de la guerre. Quand d'autres choix idéologiques plus forts, plus structurés au sens de les formations politiques, comme le communisme qui est derrière la porte, prendront la relève, alors Breton deviendra, lui, l'homme qui s'éloigne par rapport à ces nouvelles possibilités.
Alors, cela dit, cette amitié entre Aragon et Drieu, bientôt avec Malraux, ce n'est pas seulement, elle ne se passe pas uniquement dans les librairies ou dans les cercles littéraires, c'est une amitié vraiment de tous les jours, de toutes les nuits. On les voit, vous en parlez tout le temps, Maurizio Serra, constamment vivre un peu la vie des dandys de l'après-guerre. C'est ça aussi qu'ils ont en commun. On les voit régulièrement, même partager des femmes. Ils vont régulièrement dans les bordels. On dit même qu'il y a eu une aventure homosexuelle entre Aragon et Drieu.
Oui, cette aventure a fait le sujet de beaucoup d'histoires et d'évocations. Je pense quand même qu'elle a eu un rôle, quelles qu'en soient les dimensions réelles, fugitif. Ce qui est important...
Fugitif, vous dites, tentative de gymnastique, pas oui, tout à fait orthodoxe,
oui,
c'est
voilà.
Écrit Aragon.
Oui. Voilà.
Ils étaient un peu sous.
Oui, ce que je pense par contre, c'est que leur vie n'était pas austère et qu'il y avait même un refus de l'austérité et de ceux qui, derrière l'austérité, pouvaient être l'hypocrisie des parents. Rappelons le père d'Aragon, préfet, grand personnage de la Troisième République et qui avait une ou plusieurs vies secrètes. Alors, à ce moment-là, c'était de la part de ces jeunes une tentative de se libérer. Il y a quelque chose d'ailleurs qu'on peut, vu que c'est le moment où on peut évoquer mai 68 dans tout cela.
En tout cas, cette amitié a duré assez longtemps, entre Drieu et Aragon notamment, jusqu'à la première lézarde dans cette amitié, quand Drieu se sépare des surréalistes, et au moment où les deux hommes, d'ailleurs, rencontrent également Malraux, qui vient d'écrire Les Conquérants. Et ce qui est frappant, vous le rappelez, chez chacun d'eux, c'est que leur amitié est fondée sur une admiration réciproque, comme celle qu'éprouvait Drieu pour Aragon. On écoute justement un de leurs amis communs, Emmanuel Berle, en parler à Jean d'Ormesson en 1968.
Il y avait l'obsession d'Aragon chez Drieu, n'est-ce pas? Ça a été sa grande admiration littéraire a été Aragon. Il s'est considéré comme en dette avec Aragon à raison du talent qu'Aragon manifestait. C'était d'ailleurs même assez beau. Et puis, il y avait chez Drieu une générosité naturelle. que je n'ai presque pu rencontrer. J'ai été impressionné par l'exubérance de la joie de Drieu quand il a lu Les Conquérants. Il se tapait les cuisses et disait « Ah, le petit copain !» N'est-ce pas ? Et la même joie, il l'avait eue en lisant Le Libertinage d'Aragon. Il a vraiment le désir que d'autres gens, comme lui, écrivent de bons livres.
Contrairement à ce qui se passe souvent dans le milieu littéraire, Maurizio Serra, il n'y avait pas de jalousie entre Aragon, Drieu et Malraux. Il y a même une admiration réciproque, on vient de l'entendre.
Oui,
dans la bouche d'Emmanuel Berle.
Oui, et justement, évoquons au passage cette personnalité extraordinaire. Je vous remercie vraiment d'avoir choisi ce passage d'Emmanuel Berle, qui est un homme qui a, dans les moments les plus difficiles, maintenu. J'ai beaucoup appris, je n'ai pas pu le rencontrer, mais en lisant ce qu'il disait vraiment, ayant été un témoin privilégié de cette amitié sans jalousie, et de cette amitié et de cet amour au sens propre, qui passe par-delà les clivages idéologiques les plus évidents, les plus bigots, qui ont endigué des personnalités moins fortes que ces trois auteurs, et j'oserais dire même forte, même dans les camps où chacun s'était placé.
Ils avaient d'ailleurs un style un peu comparable, les trois hommes. C'est peut-être ça aussi qui les a rapprochés.
Oui, c'est également
l'amitié aussi que vous évoquez, l'amitié, l'admiration pour Barrès.
Oui, c'est un style qui part d'une sorte de reconquête esthétique par rapport à la dimension plus immédiate, plus frustre de la réalité. Donc, c'est un style qui est au début non réaliste, qui devient de plus en plus cassant et de plus en plus économe en passant aux œuvres majeures, et qui effectivement a des ressemblances extraordinaires.
Alors, une amitié en tout cas qui était, comment dirais-je, qui a séparé, qui s'est achevée en 1928 en ce qui concerne Aragon et Drieu, moins pour des raisons politiques, d'ailleurs elles existent, que pour une histoire de femme, dites-vous, Maurizio Serra.
Oui, je pense que la rupture, la première grande séparation, est une histoire d'amour dépité, dont de difficultés à s'entendre. C'est le propre d'ailleurs de ce genre d'amitié amoureuse, si l'on veut, qui puisse déboucher sur un problème de ce genre. Mais certainement, à partir des années 30, c'est alors là l'idéologie et l'histoire qui rattrape ces personnages, et c'est pour la raison pour laquelle il m'intéresse à partir de ce moment-là de les voir vraiment face aux grands enjeux de l'histoire.
Déchiré comme beaucoup d'écrivains entre les deux grands totalitarismes de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire le communisme et puis le fascisme. Alors, Aragon adhère au parti communiste à cause d'une femme d'ailleurs aussi. Quelles sont les raisons ? Il y a Elsa Triolet qui le pousse justement dans les bras du communisme. Il n'y a pas que ça dans l'adhésion d'Aragon qui va provoquer sa rupture avec Drieu.
Mais je crois qu'Aragon adhère à un parti et adhère à une femme en même temps. C'est-à-dire qu'il y a une monogamie existentielle et idéologique qui deviennent très fortes. Il est passé par la crise de la phase de l'infini, c'est-à-dire un moment où il n'a pu libérer complètement toutes les forces qui étaient en lui. Il en a eu peut-être peur. C'est le moment de rupture avec ce que le surréalisme représentait. Et il entre vraiment un peu au couvent, c'est-à-dire il s'oblige à une grande discipline qui durera des décennies d'ailleurs, qui est bien après la
fidélité
guerre.
Fidélité au PC. Oui.
Et qui est une double fidélité au PC et à l'idée du PC, à Elsa et à l'idée d'Elsa. C'est à peu près unique, je crois.
Il y cherchait une famille des Picasso en parlant de l'adhésion d'Aragon au PC.
Oui, je pense qu'il y avait de cela. Il y avait certainement le besoin d'avoir ce dont il avait été privé dans son enfance, mais également peut-être quelque chose de plus. Le fait qu'il y avait un rôle qui lui était réservé, qui à ce moment-là ne pouvait appartenir qu'à lui.
Alors, une famille auprès de laquelle Aragon va retrouver André Malraux, surtout au moment de la guerre d'Espagne dans laquelle les deux hommes allaient s'engager, Malraux dans les brigades internationales et Aragon à Paris pour y demander l'intervention de la France.
C'est parce que nous ne voulons pas voir la France avoir le sort de l'Espagne que nous pensons qu'il faut s'unir et nous espérons. Nous croyons d'ailleurs profondément que notre exemple tout naturel sera contagieux et que les hommes qui ont les destinées politiques de notre pays entre les mains le comprendront.
André Malraux.
Pendant des jours, pendant des mois, nous n'avons pas eu autre chose à faire que d'organiser la discipline révolutionnaire. J'ai vu le sol commencer à trembler sous un autre grondement sourd qui se répétait et qui était l'arrivée des premières brigades internationales et des premiers régiments véritablement organisés d'Espagne.
Mientras queda un miliciano, los moros no pasarán.
Et c'est une des chansons les plus célèbres de la guerre d'Espagne. Aragon, évidemment, était du côté, comme Malraux, du côté républicain, au sein d'un parti communiste auquel Malraux était en marge. Mais enfin, il était très proche d'Aragon à ce moment-là, politiquement parlant, alors que Aragon ne voit plus Drieu.
Oui, tout à fait. Bien qu'il faut situer autour de la guerre d'Espagne et, à mon avis, avec une certaine influence de ce qu'il a vu en Espagne, la prise de distance de Malraux vis-à-vis du communisme, dont il a été très proche, presque à être considéré un compagnon de route dans les années 34-36. À partir, d'ailleurs, il y a à ce sujet une première version dont on a beaucoup parlé, de l'espoir, et une version définitive qui, comment dirais-je, est là vraiment où se situe un peu cette amorce de détachement. Alors que dans le cas d'Aragon, qui n'a pas le même rôle international, n'est pas à ce moment-là un écrivain aussi mondialement connu que Malraux, qui a eu un succès extraordinaire avec La condition humaine. Ça relève plutôt du rôle d'un écrivain du parti qui est très fort dans l'organisation, surtout l'organisation des congrès antifascistes. Et voilà, donc son rôle est de ce point de vue un peu plus effacé.
Alors, congrès antifasciste, évidemment, qui interdit au moins à Aragon de revoir Drieu, car Drieu, La Rochelle, pendant ce temps-là, lui, a adhéré, a basculé dans le fascisme. Pour quelle raison, Maurice Serra?
Ah, ça, c'est
et
très...
à quel moment et...
C'est très difficile. On peut le situer dans le temps, ça, c'est relativement facile. C'est en principe, vers 1935 que s'amorce, d'une part, avec ses voyages en Allemagne. Et d'abord, il avait déjà vu l'Italie fasciste, mais c'est surtout l'Allemagne qui le frappe en ce moment-là. Et puis, certainement, la rencontre avec un homme comme Doriot, qui lui semble être vraiment l'alternative à tout ce qu'il voit de périmé, voire de corrompu, de passé dans le monde parlementaire français.
Il faut rappeler qui était Doriot. Doriot est un transfuge du Parti communiste qui va être le grand chef du fascisme français dans les années 30, à la fin des années 30.
Tout à fait. C'est un personnage, d'ailleurs, qui a une personnalité incontestable et qui a, de ce point de vue-là, joué un rôle très négatif chez Drieu, parce qu'il a vu en lui ce qu'il appelle l'homme qui sue, c'est-à-dire l'anti-intellectuel, ce que d'ailleurs Doriot n'était pas, mais il en avait les poses, il en avait les attitudes, il avait compris ce besoin de virilisation d'une certaine famille d'émarginés, d'intellectuels émarginés dont Drieu faisait partie.
Doriot, chef du Parti populaire français. Ce qu'il y a de curieux, au fond, bien sûr que le Parti populaire français, le Parti fasciste français, n'a rien que le Parti communiste, mais à la tête du Parti communiste, il y a quelqu'un qui a à peu près la carrure de Doriot, c'est Maurice Thorez. Plus tard, alors rien à voir avec les deux hommes ni avec les deux partis, on verra également Malraux suivre aveuglément le général de Gaulle, comme si les trois avaient besoin d'un père. Trois pères différents, mais c'est assez étonnant cette adhésion, plus peut-être à une idéologie qu'au chef, au fond. Il y a le culte du chef, de la force aussi, à l'évidence, chez les trois hommes.
Ah oui, je pense que vous avez touché, Patrice Gélinet, à ceux que j'essaie de mettre un peu à point dans ce livre. C'est-à-dire, il y a moins l'idéologie, vous le dites excellemment, que le chef, que le besoin du chef. Est-ce parce que le chef est un père? Est-ce que parce que le chef couvre de son ombre toutes les contradictions et les doutes qu'ils veulent balayer par cette adhésion qui est à la fois mystique, sentimentale et idéologique. Il y a une part de cela.
Alors dans le cas de Drieu, cette adhésion est assez grave parce que plus qu'une adhésion au PPF de Doriot, ça va le conduire quand même à la collaboration avec l'Allemagne. La guerre éclate et il collabore avec l'Allemagne par le truchement d'un homme qui est important, qui est l'ambassadeur d'Allemagne en France, Otto Abetz, qui va faire en sorte que Drieu prenne la direction de la très prestigieuse NRF, la nouvelle revue française de Gallimard. Et ça, c'est un rôle qui est quand même embarrassant, parce que ça veut dire que Drieu, eh bien, accepte, se soumet à une censure. La liste Otto Abetz, c'est l'interdiction de plus de 1000 livres à l'époque. Ce choix de Drieu, quand même, est extrêmement grave.
Oui, il est extrêmement grave. Il faut quand même le placer dans le contexte de l'époque. La NRF, c'est quand même quelque chose qui évoque les grandes années de la culture française et de la littérature française de l'après-guerre, de l'avant-guerre, de l'avant-première guerre mondiale. Donc, la tentative de Drieu à ce moment-là est peut-être de considérer qu'il peut y avoir une collaboration noble, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une possibilité de conserver cette réserve, ce patrimoine de culture française, en trouvant chez Abetz...
Sous l'œil des Allemands, c'est quand même difficile.
Oui, mais vous savez, Abetz est un personnage très séduisant et Drieu est, de ce point de vue-là, un personnage très naïf politiquement. Donc je pense qu'il a certainement essayé, Abetz, de lui faire croire, je dis bien de lui faire croire, il n'y avait d'ailleurs pas qu'Abetz, il y avait à ce moment-là une présence culturelle allemande de très grande qualité à Paris, qui jouait quand même les maîtres sorciers avec un certain nombre d'intellectuels français.
Cela dit, il n'y a pas de rupture, même s'ils ont rompu, si leur amitié est finie, ils se voient encore, les trois hommes. Par exemple, Drieu fait publier dans la NRF, comme c'était prévu avant la guerre, Les Voyageurs de l'Impérial d'Aragon.
Oui, on a été très dur vis-à-vis du rôle de Drieu, parce qu'on a lu d'une façon, à mon avis, trop littérale, des passages du journal de Drieu qui sont extrêmement accablants pour Aragon. Mais ils sont accablants pour tout le monde et pour lui-même. Et il faut toujours voir ce que Drieu écrit et ce qu'il fait. Ce sont deux choses différentes.
Drieu qui garde contact aussi avec André Malraux, au point d'ailleurs d'être le parrain du fils d'André Malraux. Nous sommes en 1943.
Ça, c'est une amitié sans faille. Oui.
Et puis Drieu qui participe également au voyage des écrivains français sous le patronage de Goebbels, organisé à Weimar en 1942.
À l'occasion de la semaine du livre allemand, de nombreux poètes et écrivains représentant 14 nations se sont réunis à Weimar. Ainsi se crée un courant d'échanges culturels dans le cadre de la Nouvelle Europe. À la tête de la délégation française, citons messieurs Abel Bonnard, Robert Brasillac, Ramon Fernandez, Jacques Chardonne et Drieu La Rochelle.
Nous avons revu cette très rare et très charmante ville de Weimar où nous avons reçu un accueil simple et libéral. Nous avons renoué des conversations avec des Allemands et avec des hommes des quatre coins de l'Europe. Il n'était guère question de politique. Les artistes comme les savants ont le privilège d'ignorer, ou plutôt n'exagérons pas, de feindre d'ignorer l'énormité formidable des événements qui se déploient autour d'eux. C'est ainsi que nous avons pris à Weimar une bonne leçon sur la persistance de la civilisation européenne au milieu des pires menaces.
Et c'est la seule voix enregistrée de Drieu La Rochelle. Vous ne l'avez jamais entendue, vous qui connaissez bien Drieu La Rochelle, Maurizio Serra.
Non, et il faut dire qu'elle correspond un peu à l'idée qu'on se fait en lisant les témoignages sur son attitude distante et dédaigneuse à Weimar en particulier.
Oui, on a l'impression qu'il ne croit pas en ce qu'il dit. Là.
Non, je cite dans le livre le témoignage d'un écrivain italien qui était présent et qui parle d'un Drieu enfermé dans une réserve ironique comme il convenait à l'homme qui se proclamait le plus intelligent du Congrès. Je pense qu'il se sentait très mal à l'aise dans cette
Et vous dites
qu'il
est le premier à avoir senti qu'au fond, la guerre était perdue pour le Troisième Reich. Il continue d'ailleurs de collaborer, mais sans aucune espèce d'illusion. Et puis alors, très compromis bien sûr, il se cache à Paris, protégé par Malraux.
qui, lui, a rejoint la résistance gaulliste. Et il va même essayer, Drieu, il demande à Malraux de rejoindre la résistance.
Ah oui, mais il n'est pas le seul. Il y a toute une série d'amis d'avant-guerre et même d'amis de pendant la guerre. Et là encore, le témoignage extraordinaire d'Emmanuel Berle, qui s'évertue, qui font tout pour pouvoir sauver Drieu, pour lui dire... passe donc en Suisse pendant quelques mois, et puis tu verras, les choses vont changer. Il n'y a rien de vraiment sérieux contre toi. Il n'y a pas d'abomination, voire de crime, si ce n'est de collaboration intellectuelle, qui puisse être imputé. Mais il refuse. Il y a déjà une vocation suicidaire très forte à ce moment-là.
Il se suicide le 15 mars 1945, tandis que Malraux et Aragon vont survivre à Drieu-La Rochelle pendant plus de 30 ans, mais sans jamais renier leur amitié. Alors, Aragon et Malraux ne se voient plus, bien sûr, l'un étant gaulliste, devenant même ministre du général de Gaulle, Aragon restant fidèle jusqu'au bout au parti communiste, donc les deux hommes ne se voient pas beaucoup, mais aucun des deux ne renie son amitié avec Drieu. Malraux, par exemple, vous le dites, quand il est ministre, va faire en sorte, et même avant, quand il sera ministre de la Culture du général de Gaulle, faire en sorte de publier Drieu-La Rochelle, qui évidemment était un peu oublié après la guerre dans l'édition.
Oui, pour des raisons évidentes qui tiennent à son rôle public, il n'intervient pas directement, mais il y a maint témoignage sur son rôle essentiel dans la publication et la republication des écrits, voire des inédits de Drieu.
Qu'on redécouvre d'ailleurs, qu'on a redécouvert au tout début des années 60 avec le film de Louis Malle, Le Feu follet.
Remarquable.
Ensuite édité, écrit en 29, mais réédité par Gallimard. Et Aragon, lui non plus, Aragon n'oublie pas Drieu. Il n'en parle jamais, sinon à Francis Crémieux pour dire au fond que c'est Drieu qui était le personnage d'Aurélien en même temps que lui-même. Mais à la fin, à l'extrême fin de sa vie, il fait un dessin de Drieu, comme s'il fallait, alors qu'il ne l'a pas vu depuis 60 ans, comme s'il fallait à tout prix qu'il se souvienne de son amitié, de sa première jeunesse, comme le disait Aragon.
Oui, tout à fait. Et c'est grâce à mon ami Jean Rista, le poète et l'héritier d'Aragon, que j'ai pu disposer, nous l'avons mis sur la couverture du livre, de ce dessin extraordinaire. C'est un dessin d'un Pierre Drieu dit La Rochelle, est-ce Aurélien, est-ce Bérénice, qui est vraiment un dernier témoignage, je pense, assez unique, de cette fidélité à l'amitié malgré tout.
Et d'une amitié tout à fait incroyable, comme si au fond, malgré le temps, malgré les idéologies, elle avait duré pendant longtemps. C'est ça au fond peut-être la leçon de votre livre, Maurice Auxerre. Ça n'a jamais été fait de faire comme ça une biographie, de comparer de trois hommes différents, dont tout le monde a oublié aujourd'hui qu'ils avaient été amis pendant plusieurs années.
Oui, et quelle amitié et quelle histoire.
En tout cas, une amitié que l'on retrouve dans votre livre, Les frères séparés, Drieu-La Rochelle, Aragon, Malraux, face à l'histoire. Un livre qui vient d'être publié donc aux éditions de la Table Ronde dans la collection Vermillon. Je signale aussi la parution de Notes pour un roman sur la sexualité, une publication inédite de textes de Drieu-La Rochelle qui vient de paraître aux éditions Gallimard. C'est un livre très surprenant parce que Drieu-La Rochelle parle ouvertement de sa sexualité. C'est un texte qui n'avait jamais été publié de son vivant, Maurice Auxerre.
Non, c'est un texte que tous les critiques, les amateurs, les passionnés poursuivaient pour avoir une lecture intégrale. C'est un texte assez bref, mais où il y a, comment dirais-je, la patte de Drieu.
Note pour un roman sur la sexualité, donc chez Gallimard. Vous avez pu entendre un extrait du film Aurélien d'Arnaud Sélignac, édité en DVD chez LCJ, ainsi qu'une archive pâtée de 1941, pardon, issue du DVD de Marc Ferraud, Archives de guerre, ce que les Français ont vu dans les salles de cinéma. Disponible chez Nouveau Monde Édition. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Anne-Laure Cochet et Céline Bonhomme. Documentation et archives sonores, Emmanuel Fournier, Franck Oliva, Pierre Destacan et Élise Médétournion. Une réalisation d'Anne Kobilac. Demain, dans notre émission, la franc-maçonnerie française.